France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Max Emmanuel Cencic. Je suis né en 1976 à Zagreb et je suis contre-ténor.
Bonjour, Max Emmanuel Cencic.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous accorder ce temps sur France Musique, juste avant la création du Soulier de Satin, opéra écrit par Marc-André Dalbavy sur le texte de Claudel pour l'Opéra National de Paris. Vous êtes, on pourrait le dire, artiste jusqu'au bout des ongles, un genre de caméléon polymathe. On vous connaît comme chanteur dans le registre mezzo-soprano de la grande famille des contre-ténors. Un timbre fauve, des graves généreux, des aigus survoltés, un vibrato voluptueux et puis toujours une expression très forte et cette attention, on le sent, que vous portez à l'importance des mots. Mais vous êtes aussi metteur en scène, directeur du Festival d'Opéra Baroque de Bayreuth, patron de votre propre société Parnassus Arts Productions, enfin en tout cas, une vie bien rempli. Ensemble, on va prendre le temps de parcourir ce chemin, un chemin escarpé, évidemment, et des jalons, parce que à 41 ans, vous avez fêté vos 35 ans de carrière.
Oui, voilà.
Ça laisse songeur, quand même. Est-ce que la musique a toujours existé pour vous?
Oui, j'ai commencé avec la musique très tôt. Déjà à 4 ans, j'ai commencé à prendre mes premières cours de chant avec ma mère. Et à 6 ans, j'avais pratiquement mon premier spectacle.
C'était quoi l'ambiance à la maison? C'était Zagreb, votre enfance?
Oui, c'était pas toujours Zagreb. Moi, en fait, les premières 3 ans, j'ai passé en sud-ouest d'Hongrie, où ma mère vient. Et après ça, j'ai passé 6 ans de mon enfance à Zagreb. Et puis après, je suis parti vivre en Autriche. Et depuis là, je suis autrichien.
Et vous êtes globe-trotteur?
Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a vécu après en Angleterre, aux États-Unis. Ma sœur, elle vit à New York, donc on est un peu partout.
Votre sœur, elle est plus grande ou plus petite que vous?
Elle est plus petite que moi. Elle a 5 ans moins.
Donc c'est vous l'aîné de la famille?
Oui, c'est ça.
Le premier. Alors vos parents, on l'entendait, votre mère musicienne, chanteuse donc?
Oui, elle était chanteuse d'opéra et ma tante aussi. Et mon père était chef d'orchestre.
D'accord, donc une famille pleinement musicienne.
Oui.
En français, on dit un enfant de la balle.
C'est ça.
Et votre mère était hongroise alors?
Elle vient d'une famille très mixte, slovaque, allemande et une autre italienne de Venise. Donc voilà, c'est un peu de partout.
Et la langue de votre enfance, c'est laquelle?
J'ai commencé de parler hongrois dans mon enfance. Après, j'appris croate, ce qui était un peu difficile parce que hongrois et croate sont des langues très très opposées et très très différentes. Et après, j'appris allemand. Et après, j'étais même dans l'école française pour des petits enfants. Comment s'appelle ça? Jardin?
Oui, français. Jardin d'enfants. Ouais.
Voilà, jardin d'enfants, c'était un jardin français. Voilà, c'est là où j'ai aussi appris un peu français déjà.
Et c'est vrai que la langue hongroise est une langue extrêmement particulière. C'est une langue très rare.
Oui, c'est une langue, qui est un peu plus similaire. Même pas similaire, mais disons, il a des mêmes racines qu'en finlandais, mais après, c'est vraiment très, très particulier.
Quand vous nous dites que vous avez donc ces racines en Hongrie et puis d'autres italiennes, est-ce que la musique était celle que pratiquaient vos parents ou est-ce qu'il y avait aussi la musique des lieux où vous vous trouviez?
Oui, en fait, ma grand-mère, elle aimait beaucoup Bartok.
Ah, la grand-mère hongroise.
Voilà. Bartok et Kodály. Donc, on a écouté pas mal de ça. Et aussi, elle aimait beaucoup tout ce qui faisait Emmerich Kallmann et les opérettes viennoises de Budapest. Donc, voilà, c'était un peu ça.
Elle était musicienne elle-même?
Non, pas du tout. Mes grands-parents faisaient des choses complètement différentes. Mon grand-père, il était juge. et avocat et politicien. En fait, il était même ministre pendant 3 ans. Et ma grand-mère, elle avait des négoces pour la photographie. Donc, c'est ça.
Et donc, votre mère avait une sœur et elle-même était artiste aussi. Alors, pour le coup, les enfants sont devenus musiciens.
Oui, tous les deux faisaient le chant.
Et du côté de votre père, alors, la famille, lui, il est d'où ? Ses racines italiennes, c'est de son côté ?
Oui, mon père est slovène. Et il était né loin de la frontière de Croatie. Et les racines de mon père sont plutôt dans les Alpes. Alors, on avait une grande partie de famille de mon père, au début du XXe siècle, qui sont se déplacés vivre en France, à Montpellier. Et après, une très petite partie est restée, parce que la Slovénie, à ce temps-là, début XXe siècle, n'avait pas trop de travail. C'était une transition, la monarchie était à la fin, donc après la Première Guerre mondiale. Donc les gens venaient souvent à Zagreb pour trouver du travail. Donc c'est comme ça la famille a commencé à vivre à Zagreb.
Et c'est comme ça que vos parents se sont rencontrés à Zagreb alors ?
Oui, c'est ça, parce que ma mère, elle était étudiante de la musique. Et quand ils faisaient ensemble les études à Zagreb, c'est comment ils ont se rencontrés.
Vos parents sont toujours de ce monde ou...
Non, mon père est décédé l'année dernière et ma tante aussi. Donc voilà, c'est que ma mère maintenant qui reste.
Lorsque vous êtes enfant, la musique vous entoure. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir eu envie d'en faire ? Est-ce que vous avez été attiré par l'envie de chanter ou de jouer d'un instrument ?
J'étais un enfant assez curieux, donc ça veut dire que moi, j'étais pas attiré que à chant, mais a priori, ballet m'intéressait, chant m'intéressait, la peinture, tout ce qui faisait théâtre, l'opéra. J'avais même une passion pour la langue japonaise, donc j'avais à 9 ans, j'avais un prof privé pour japonais. Ce n'était pas très clair quel chemin je vais choisir dans ma vie. Mais ma mère, elle voulait toujours me rendre toutes les possibilités pour que je puisse expérimenter et voir ce qui me plaît dans la vie. Et aussi, ma enfance était vraiment remplie avec plein des impressions très, très différentes, surtout dans le monde d'art. Et c'est ça qui m'a vraiment passionné. J'étais moins passionné par le piano et les instruments, il faut que je dise, parce que ça m'a pas plu du tout. Et mon père était un peu rigide, donc il voulait toujours que j'apprenne le piano. Mais moi, j'étais un peu pas très content.
Ben, c'est pas facile de se retrouver à peut-être apprendre la musique avec ses parents.
Non, c'est pas facile, c'est vrai. Parce que, comme enfant, on a toujours une relation spéciale avec des parents. Et moi, j'étais plutôt un petit peu rebelle. Donc, je voulais pas toujours suivre ce que mes parents me disaient. Donc, c'était pas toujours très réussi.
Thank you. Alors, est-ce que vous avez aussi des souvenirs de coulisses d'opéra? Votre père était en poste quelque part en tant que chef, ou c'était un chef invité ou est-ce qu'il était dans une maison, et votre mère, est-ce que vous les avez vus sur scène, au podium?
Mon père était... il avait le poste de chef d'orchestre à l'Opéra National de Zagreb. Et là, comme enfant, j'ai refusé de passer mon temps dans le jardin des enfants. J'ai pas aimé trop. Surtout parce qu'il nous obligeait à dormir les après-midi. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Donc, j'ai refusé. Et donc, ma mère et mon père, ils m'ont dit, OK, si tu veux pas, il faut que tu viennes avec nous à l'opéra parce que on n'a aucun place de te laisser. Donc, j'ai passé mon temps, 1 an, 2 ans, derrière la scène ou à l'opéra en regardant tous les spectacles, toutes les répétitions. Donc, les matins, je suis allé, je vois les répétitions pour la drame, pour le ballet, pour l'opéra, tout ça. Et aussi pendant l'après-midi et les soirs, j'ai vu les spectacles. Donc, comme ça, j'ai pu vraiment assister à cette magie de comment ça se passe, comment ça se développe. C'est vraiment dans mon sang, finalement.
Quand on est comme ça, enfant de musicien, on a à la fois accès, évidemment, à la partie de rêve, à la passion, et puis on a aussi l'envers du décor, et souvent des déconvenues et beaucoup de sacrifices.
Oui, c'est clair. J'ai bien compris au début que les horaires étaient longs, qu'on passait toute la journée dans le théâtre, que... on mangeait pas dans des horaires normales. Alors on se couchait très tard. J'ai passé beaucoup de temps aussi avec des adultes. Et comme ça, comme enfant, tu apprends énormément beaucoup aussi avec des adultes. Et donc c'était une enfance aussi très, comment je peux dire, hors de commun. Mais après 1 an, 2 ans, mes parents, ils ont dit, ça suffit, je ne peux pas passer tout le temps à l'opéra. Donc, ils ont cherché de me trouver un jardin des enfants un peu plus intéressant, qui peut-être pourrait me donner quelque chose, une côté qui m'intéresserait d'y rester. Et donc, cet jardin pour des enfants français, c'était un jardin assez artistique, avec plein de choses comme peinture, chanter ensemble, des choses un peu plus intéressantes.
France Musique, les grands entretiens de Max-Emmanuel Tchentchik.
Alors, à 6 ans, un premier concert, ça se passe comment? Comment on arrive à donner son premier récital à l'âge de 6 ans, ou récital, ou je ne sais pas si c'était un récital, comment c'est arrivé?
C'était grâce à mon ambition. J'étais très ambitieux comme enfant. J'ai vu pendant des années des gens qui se produisaient à la scène. Alors moi, je me suis dit, moi, je vais aussi aller à la scène maintenant et je veux chanter quand même. Et donc, une soirée, un spectacle... À la fin de ce spectacle, ma mère, quand elle a chanté, les artistes, le maître en scène, tous ont été dans le buffet de théâtre après pour fêter la première. Et moi, je suis allé voir le maître en scène. J'ai dit, écoutez, grand maître, venez m'écouter. Est-ce que vous pourriez me donner une audition? Et les gens riaient énormément parce que un gamin de 5 ans qui venait voir un maître en scène en pleine fête à minuit disait, écoute, tu peux me donner une audition, je vais chanter pour toi. Donc, il disait, pourquoi pas aller? Donc, ils ont illuminé la scène encore, ils ont mis un piano. Mon père s'est mis sur piano et j'ai commencé à chanter un peu, les coloratures de la Reine de la Nuit. Et il a dit, tiens, c'est génial ça, qu'est-ce que tu fais? Moi, au début, je voulais chanter à l'opéra, mais lui, il a dit, mais non, moi, j'ai une émission pour des enfants les matins dans la télévision. Alors, il faut que tu viennes là chanter pour des enfants parce que ça, c'est vraiment quelque chose hors de commun. Et moi, je me suis dit, oh, bon, ben, télévision, tout ça, c'était pas complètement mon idée. Mon idée, c'était plutôt d'avoir quelque chose d'un truc de costume, de sortir à la scène. La télévision, ça m'a pas donné trop envie. Ben, finalement, je suis allé et c'était le premier spectacle que j'ai fait. À 7 ans, on m'a invité après à chanter Bach, le Passion selon Jean, mais j'étais trop jeune, j'ai pu pas même lire encore la musique, solfège, j'étais toujours nul dans solfège.
Faisais-toi l'oreille.
Oh là là, solfège, mais c'était horrible. En plus, moi, j'ai pas parlé allemand, j'ai pu pas lire la musique, donc j'ai appris vraiment par oreille. À 7 ans, les deux airs de Marie-Magdalène, et c'était vraiment dur. Donc, cette expérience n'était pas vraiment la plus heureuse.
Et quel rapport vous aviez avec votre voix à l'époque, Max-Emmanuel Tchentchik? Est-ce que c'était quelque chose de très intuitif?
Oui, c'était un peu, disons, du n'importe quoi, parce que ma mère, elle a dit, ah, ben, est-ce que tu veux essayer ça, ou essayer ça. Donc, comme ça, j'ai commencé peu à peu à apprendre, par exemple, Exultate Jubilate de Mozart, je fais Glière, la vocalise, des trucs comme Olympia, d'Offenbach. Voilà, c'était un peu programme fou. Et mon premier récital, j'ai donné à 9 ans.
Mais récital en public, sur une scène.
Oui, parce qu'avant, c'était justement des petites choses que je faisais à l'opéra, par exemple. Je chantais le troisième fantôme dans Macbeth, par exemple, des trucs comme ça, où je chantais que 2 minutes. Parce qu'à cet âge-là, on ne peut pas faire trop de choses.
Il y a les petits-enfants dans La Flûte Enchantée.
Oui, ça j'ai fait. La Flûte Enchantée, dans les trois garçons, ça, j'ai commencé à faire, là, j'avais 11 ans. À Wiener Staatsoper. Et c'était la production avec Arnon Cour, mise en scène par Otto Schenk. Voilà. J'étais aussi très doué pour le ballet, en fait. Et à 9 ans, j'ai fait une audition pour un pensionnat à Saint-Pétersbourg pour entrer dans l'école de ballet en Russie. Mais là, quand ma mère a entendu qu'elle ne pouvait pas me voir pendant 6 mois ou un an, Bah, elle a flippé, elle a dit non, à 9 ans, je vais pas envoyer mon enfant en Russie et de ne le jamais voir plus, ou un truc complètement fou. Et donc, on a commencé de se concentrer plutôt dans l'idée que je poursuive une carrière de chant. Parce que, en Yougoslavie, en ce temps-là, on n'avait pas vraiment des écoles artistiques pour des enfants. La seule possibilité était l'université à partir de 18 ans.
Ah oui, il n'y avait rien avant.
Rien avant. Donc, ma mère n'était pas contente avec ce système éducatif. Donc, elle a pensé de m'envoyer en étranger, en tout cas, pour que j'étudie déjà quelque chose avant 18 ans. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé en Italie pour une audition chez les Voci Bianchi à Bergamo. Après, on est allé à Munich pour aussi une audition chez les Tölzer Sängerknaben.
Vous avez quel âge là? Vous êtes petit garçon?
J'avais 9 ans, oui.
Ah oui.
Et finalement, j'étais à Vienne. Et à Vienne, on m'a accepté. Et ce qui était bien à Vienne, c'était que c'était un pensionnat qui permettait de partir le samedi dimanche à la maison. Et Vienne était bien parce qu'on avait de la famille à Vienne, on a pu se déplacer très vite entre Zagreb et Vienne, alors que Milan et Munich, c'était un peu plus loin et plus compliqué, ils n'avaient pas des pensionnats. Donc mes parents auraient été obligés de se déplacer vivre en Italie ou en Allemagne, ils ne voulaient pas. Donc voilà, c'est comme ça.
C'est votre mère qui vous a préparé, Max Emmanuel Cencik, à tous ces concours pour ses voix d'enfant, que ce soit Milan, Munich ou Vienne.
Oui, c'est ça. J'ai travaillé avec ma mère beaucoup comme enfant.
Et vous avez regretté le ballet?
Non, pas du tout. parce qu'en fait, la prima ballerina Sofronova, quand elle m'a vue, elle a dit « Ah bah, il va pas grandir beaucoup, il va rester très petite ». C'était son premier commentaire. Elle a dit « Mais s'il vient en Russie, on va lui donner peut-être un peu une diète spéciale qu'il croise un peu plus ». Ma mère, elle avait un peu de cette choc, l'idée « Oh, ils vont lui donner des hormones ou je ne sais pas quoi ». Donc, elle avait très peur. Et moi, finalement, je me dis aussi aujourd'hui, quand j'ai tout ce problème avec mes ligaments et le genou, je me dis ah, « c'est bien que je n'ai pas fait le ballet, j'aurais été très très mauvais à la fin ».
Vous étiez un peu isolé par votre passion, vous diriez?
Oui, j'étais plutôt timide et introverti et j'ai passé beaucoup de temps de mon enfance seul à ce temps-là. Après, tout cela est devenu mieux. Et finalement, à Vienne, quand je suis rentré à l'école des petits chanteurs de Vienne, c'était vraiment très différent parce que là, j'étais avec des autres enfants qui chantaient aussi, donc c'était très facile.
C'est sur cet extrait de l'album pour les enfants de Béla Bartok par Derzu Ronki que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Max Emmanuel Cencik. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Jason Taos, mixage Philippe Mercher, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.